Bonjour. Aujourd'hui, nous vous offrons une section de texte tirée des médias suivants. Quatre temps, l'inconvénient et liberté. Au programme, ensemble, rêvons le jardin botanique. L'actualité profonde et la civilisation mondiale des déchets. Bonne écoute.
Ensemble, rêvons le jardin botanique. Un texte de Anne Charpentier, paru dans la revue Quatre temps à l'automne 2021. Les enjeux liés au changement climatique et à la perte de biodiversité nous poussent tous à l'action. Alors que son centenaire se profile à l'horizon, le Jardin botanique de Montréal actualise sa vision et s'ancre plus que jamais dans les aspirations actuelles de la société. Considéré comme l'un des 10 jardins botaniques les plus importants au monde, le Jardin botanique de Montréal, qui aura un siècle en 2031, se dotera bientôt d'un plan directeur, le premier de cette envergure depuis sa fondation. Le jardin a de formidables aspirations, notamment sur le plan écologique, et nous nous préparons à y répondre. Porté par une vision inspirante, ce document comportera, entre autres, des idées de projets sur l'expérience de visite et du site, ses aménagements, ainsi que sur son rôle dans la communauté, ainsi qu'à l'international. Élaborer un plan directeur est une entreprise colossale. Les défis du jardin sont en effet nombreux, et les voies qui l'apprécient multiples. Nous avons donc mené plusieurs projets de front. Le premier est notre démarche participative « Rêver le jardin botanique 2031 ». Cette approche m'était très chère, car une démarche collaborative avait été préconisée pour imaginer le nouvel insectarium dont j'ai eu le privilège d'être la directrice. « Rêver le jardin botanique 2031 » repose sur un vaste sondage mené auprès de citoyens à l'été 2020 et sur une série d'ateliers auxquels ont participé à la fois des citoyens et des représentants de la grande équipe du jardin et d'espace pour la vie, tous corps de métier confondus. La moisson, immense, a permis de dégager 7 orientations. 1. Leadership et exemplarité. Le jardin occupe une position privilégiée pour contribuer à la transition écologique. Il doit assumer son leadership en la matière et faire preuve d'exemplarité. Il doit également contribuer à faire évoluer les comportements et s'investir dans un projet de société viable. 2. Rôle des végétaux. Les plantes sont perçues comme des alliés naturels de la vie humaine, tant par leur esthétique que par les services écosystémiques qu'elles assurent. Le jardin botanique doit témoigner des technologies qui peuvent en émerger. 3. Caractère scientifique. La science apporte de la crédibilité et des assises solides à tout projet, quel que soit le domaine. Le jardin doit continuer d'être un modèle de recherche en biologie végétale et dans les champs d'expertise associés aux pratiques horticoles et aux phytotechnologies. 4. Expérience sensorielle. Le jardin doit répondre aux besoins d'immersion, de contemplation et de découverte de la nature. Il doit favoriser la reconnexion avec les végétaux en proposant des expériences axé sur le sensoriel et les motifs pour mettre en valeur les bienfaits de la nature et de sa beauté. 5. Expertise au service des citoyens. Le jardin doit mettre son expertise de recherche et son savoir-faire non seulement au service des citoyens, mais aussi auprès de groupes ayant des intérêts communs et à l'international. 6. Implication citoyenne. En plus d'impliquer les citoyens et de leur permettre d'être des acteurs de la transition, le jardin doit répondre à leurs préoccupations et les intégrer davantage à son fonctionnement. 7. Importance du lien avec la nature. Le lien avec la nature doit transcender toutes les actions du jardin botanique. Le jardin botanique en transition. En parallèle, plusieurs études ont été lancées. Il s'agit par exemple de documenter la valeur patrimoniale de l'institution, de mieux prendre en compte la faune présente au jardin ou encore de comprendre les mouvements de l'eau et les pertes dans nos étangs et nos ruisseaux. On souhaite aussi connaître les parcours de visite favoris et la mobilité opérationnelle. Enfin, il est indispensable de réfléchir au futur de nos collections de serres et des jardins extérieurs, notamment en ce qui concerne leur adaptation au changement climatique. Car, bien que notre jardin botanique soit exceptionnel, il fait face à quelques enjeux. Plusieurs infrastructures sont par exemple désuètes et nécessitent des travaux importants. Le bâtiment Marie-Victorin, dont l'architecture Art déco est unique à Montréal, fera l'objet de travaux en 2022-2023. Nos serres de conservation et d'exposition ont besoin de rénovations très importantes pour demeurer l'oasis de biodiversité tropicale si chère aux Montréalais. Un bilan moyen des émissions de gaz à effet de serre, GES, d'Espace pour la vie 2016-2018, a démontré que la consommation de gaz naturel pour chauffer les bâtiments et les serres du jardin botanique constitue la principale source d'émissions de GES d'Espace pour la vie, toutes institutions confondues. Le jardin consomme aussi une grande quantité d'eau potable, tant pour assurer l'arrosage que pour compenser les pertes d'eau dues à l'évapotranspiration ou aux fuites des divers bassins et étangs. De plus, le jardin a été conçu à une époque où l'automobile occupait une place importante. Les voies de circulation principales avaient été pensées en fonction de la circulation automobile à l'intérieur du jardin. Les choses ont bien changé depuis. Pourtant, la vision des fondateurs, le frère Marie-Victorin et son architecte paysagiste principal, Henry Tusher, résonne encore aujourd'hui comme s'ils avaient su prédire l'avenir. Citation. Avec la concentration grandissante de la population dans les grandes villes et l'éloignement de la nature que cela entraîne, il me semble que le jardin botanique de l'avenir a une grave tâche à accomplir en aidant le citadin déraciné à retrouver ou à conserver le lien salutaire avec la nature dont, après tout, fait partie l'homme. Fin de citation. Programme d'un jardin botanique idéal publié en 1940, Henry Tusher, directeur des services techniques, concepteur des plans et aménagements du jardin botanique dès 1931. Dans les années 1930, il n'existait pas de données pour démontrer les bienfaits de la nature sur l'être humain. Des milliers d'études scientifiques ont depuis prouvé que la nature contribue à une meilleure santé physique et psychologique. Les jardins botaniques, avec leur nature admirablement mise en scène, sont bien placés pour répondre à cette quête de bien-être. Nous espérons déposer en 2022 le plan directeur du jardin botanique et les principaux projets qui en définissent les contours. Une autre démarche de consultation permettra aux citoyens d'exprimer leurs préférences et leurs priorités, car le Jardin botanique de Montréal appartient à la collectivité. Je souhaite ardemment que son 100e anniversaire soit l'occasion de sa remise en beauté, afin que sa visite nous transporte en tout lieu, mais aussi que l'institution incarne la transition écologique pour les générations futures. C'était « Ensemble rêvons le jardin botanique », un texte de Anne Charpentier, paru à l'automne 2021 dans la revue Quatre Temps. actualité profonde. Un texte de Vincent Lambert, paru dans le numéro 87 de la revue L'Inconvénient à l'hiver 2021-2022. En 2001, j'ai passé une partie de l'automne à fouiller les microfilms à la bibliothèque de l'université. Personne ne me l'avait demandé. Les vieux journaux m'attiraient. À Buckland, dans mon coin de pays, il existe une toilette tapissée de journaux du début du siècle. Longtemps après avoir pissé, je regarde les statistiques des Canadiens et je me demande s'ils vont laisser croupir les épaves au fond du Saint-Laurent ou si Fernandor Doucet est vraiment un adepte de Mussolini. Je me dis, il faudrait écrire un éloge des vieux journaux. Cela commencerait par une scène de démolition. Car il fut un temps où les murs du Québec, ceux de la maison familiale en tout cas, étaient isolés avec du papier journal. Des années plus tard, on défonce, et c'est là, dans la main, un fragment friable du temps présent de jadis. Pendant un instant, on a envie de l'encadrer. Comment se fait-il qu'on recouvre aujourd'hui les murs avec leur ancienne matière isolante? Tout ce qu'on lit dans les journaux sera transformé par le temps en trésor. Vu du grand après, l'actualité d'un autre temps se mettrait donc à resplendir. Mon hypothèse est qu'il existe une perspective où notre actualité est déjà celle des autres que nous étions. De ce point de vue-là, elle est drôle, étrange, tragique, magnifique. Je m'aperçois que j'allais chercher dans les vieux journaux le regard qu'il me fallait pour assimiler les images du 11 septembre et la grande obscurité qui nous entrait dedans. Il faudrait voir s'il est accessible dès maintenant en lisant le journal de Montréal. Il en va peut-être ainsi des morts. Je ne sais pas pour les morts des autres, mais en mourant, mon grand-père Ovila est devenu plus beau. Encore maintenant, je n'ai qu'à penser à lui pour le voir hanté d'une bonté qui n'avait pas autant d'éclat quand il était debout. Il était plus souvent question de son tempérament, de ses rudesses avec grand-maman, de ses obsessions de jardinier trop vieux pour remplir patiemment sa bouteille de coke de bibitte à patate. Et pourtant, dès qu'il a disparu de ma vue, il s'est mis à briller. « C'est quand les gens sont morts qu'ils commencent à changer », écrit Marie-Claire Blais. « Il suffit qu'ils meurent pour qu'on en dise du bien. » J'ai moi aussi pensé, en nous entendant faire l'éloge des pires imbéciles après leur mort, « bande d'hypocrites ». Mais il y a autre chose à l'œuvre, quelque chose qui dépasse les limites de nos motivations égocentriques. On ne parle pas des morts en mal, faisons bonne figure, pour toucher à des raisons bien plus secrètes. Il est aussi possible que, quand ils ne sont plus là pour nous entendre nous plaindre à leur sujet, les défunts l'ignorent, mais ils réclament en nous justice. Se donner bonne conscience, c'est au fond reconnaître que notre regard était insuffisant, biaisé. Les défunts nous invitent à voir en eux ce qu'on ne savait pas voir, ce qu'eux-mêmes ne percevaient pas. La mort les révèle partiellement. Ce n'est pas que je ne considère que le bon côté du grand-père. Je n'écarte pas sa rigidité, sa complète insensibilité aux soucis des autres. Tout cela fait encore partie du portrait. Mais quand je repense à lui, je n'y peux rien. Ce qui me dérangeait de son vivant m'attendrit. Derrière le mur de sa personne, je ressens mieux sa frustration, et derrière le tourment, la fragilité, et derrière encore, je crois sentir à quel point je l'aimais malgré tout. C'est même la sensation d'un amour qui ne finit pas. Quand je regarde en moi son visage, le visage de n'importe quel mort, il devient transparent. Il est assez facile d'en percer les premières couches. Je ne le pensais pas si profond. On dirait même qu'il est traversé d'une bonté qui vient d'au-delà de son image. Elle arrive à me rejoindre, même du pays des morts. En fait, la disparition du grand-père réel lui facilite probablement la tâche. Le mien n'a jamais été aussi généreux. Il génère du temps clair que depuis qu'il est parti. Arroser la présence des morts en moi me rend moi-même un peu plus clair. Il suffit de penser à eux pour sentir ce qui se passe au travers du monde et des êtres, pour apprendre à voir à travers les yeux d'un mort. Quand plus rien n'a le poids qu'il avait et que tout importe. Que j'aimerais nous voir ainsi de notre vivant. Que j'aimerais lire le journal avec ce regard-là. Ça ne doit pourtant pas être si compliqué. Un léger changement d'angle et ça y est, non? J'ai failli dire un ajustement. Je pense en effet que ce point de vue-là, qui est au fond celui des morts, est plus juste. Sa justesse vient de sa double perspective. Il me place à la fois dans mon temps et au-delà. Pendant que mon corps me permet d'expérimenter le temps et tout ce qu'il charrie, il semble qu'une partie de moi, qui est peut-être l'essentiel, mon être, est toujours en dehors du monde à regarder à l'intérieur. Ce n'est pas pour rien si les journaux, les écrans, les yeux ont la forme de fenêtres. Mais de ce point de vue-là, dans ce grand détachement, comment pourrait-on agir? Comment refaire le monde? Comment l'empêcher de se défaire? C'est simple. Rien ne changera jamais. Rien ne sera même vu sans être vu du dehors. Appelons ça des moments de conscience. N'être soudain pas au monde est peut-être la seule façon d'en être vraiment. C'était L'actualité profonde, un texte de Vincent Lambert, paru dans le numéro 87 de la revue L'Inconvénient, à l'hiver 2021-2022.
La civilisation mondiale des déchets. Un texte de la rédaction, paru au printemps 2023 dans le numéro 338 de la revue Liberté. Nous nous demandons souvent à Liberté si notre incapacité imbécile à imaginer notre fin, individuelle aussi bien que comme espèce, ne participe pas à notre délire de destruction, comme si ce déni finissait par s'exprimer dans nos comportements compulsifs. Notre adoration de l'accumulation et notre insouciance à mettre au rebut ce qui hier pourtant nous semblait si nécessaire, si urgent à obtenir, accélèrent ainsi la fin que nous refusons de considérer. Sur quelle planète vivront les enfants de nos enfants? Dans un avenir qui nous dépasse, un avenir duquel nous serons absents, absentes, mais qui sera la conséquence directe de notre présence. Acheter, avoir, jeter, bah, on inventera bien quelque chose, non? Quand nous étions petits-petites, nous regardions passer les camions à ordures avec un mélange de peur et de joie. Nous nous imaginions courir, nous aussi, dans les saletés, nous agripper à la barre les cheveux au vent. Nous voulions être vidangeuses. mais les adultes prenaient un drôle d'air. Alors, quand on nous demandait ce que nous voulions faire plus tard, nous répondions comme tout le monde, vétérinaire. Aujourd'hui, nous savons que, même s'ils sont toujours aussi déconsidérés qu'avant, les métiers du nettoyage sont les plus importants. C'est un nœud, on dirait, dans toutes les réflexions le moindrement sérieuses sur la vie en société. Essayez pour voir de parler autour de vous de vos idéaux anarchistes. Nous parions que quelqu'un vous répondra ce grand classique. C'est bien joli en théorie, mais qui ramassera les poubelles? Savons-nous d'ailleurs, ici, maintenant, qui les ramasse? Justement, chaque semaine, le camion des poubelles passe. Magie! Les ordures disparaissent. Nous vivons un soulagement épais, détendu. L'odeur se dissipe, la maison redevient un espace paisible. Nous pourrions revoir ces poubelles dans un dépotoir ghanéen, en Chine ou dans une carrière près de chez nous, au fond du fleuve, dans la forêt qui s'étend derrière la maison, dans le poisson que nous mangeons ou dans les grandes étendues du Nord. Mais pour l'instant, n'y pensons pas. Faisons comme si, puisque de toute façon, nous nous sentons loin des dépotoirs et des bidonvilles, loin des montagnes de détritus largués en Inde, lavés que nous sommes chaque semaine comme par magie de l'angoisse et des questions insoutenables qui surgissent à la vue de déchets indécomposables jusqu'à l'horizon. Poubelle, poubelle, dites-moi qui est la plus belle. Usage de vie, usage de mort. Les poubelles racontent qui nous sommes. L'humanité est-elle prise dans sa phase poubelle? Dans Fraggle Rock, émission jeunesse des années 1980, les ordures, amas de détritus, prennent vie et prodiguent conseils et paroles de sagesse. Mais nous, avons-nous appris de nos poubelles? Sommes-nous même capables d'y réfléchir? Nous sommes des champions championnes toutes catégories du déni, des mages spécialisés dans l'illusion de disparition. Hocus pocus, conséquence de notre mode de vie. Disparaissez. Mais c'est encore un truc de magicien amateur. Sur le site du ministère de l'Environnement, on peut lire que les Québécoises et les Québécois produisent en moyenne 25 tonnes de matières résiduelles non dangereuses chaque minute. Faisons un petit calcul. 25 tonnes par minute multipliées par 60 minutes donnent 1500 tonnes par heure. 1500 tonnes par heure multipliées par 24 heures, ça donne 36 000 tonnes par jour. On dit qu'une voiture pèse une tonne. Imaginez maintenant 36 000 voitures par jour qui s'accumulent. Au bout d'un an, on est à 13 140 000 tonnes de déchets domestiques. Seulement au Québec. Et ce sont seulement les matières résiduelles. On n'a même pas parlé des déchets d'usine, de toutes sortes d'usines, ni de ceux des mines, du pétrole, des égouts, des hôpitaux, de la construction et d'eux. Et bien sûr, ce sont les pays pauvres qui ramassent la merde. On envoie chaque année des millions et des millions de tonnes de déchets en Asie, en Afrique. Existe-t-il un geste plus colonialiste? Les poubelles sont le fil direct, la conséquence concrète et matérielle de la société de consommation. Nous pourrions bien faire des pieds et des mains, hurler à la lune, chanter des formules, accomplir des rituels pour réduire les poubelles. Si nous ne changeons rien à nos modes de vie, elles continueront de s'accumuler de 25 tonnes la minute en 25 tonnes la minute, seulement au Québec. C'est un problème profond et aucun des gouvernements qui se succèdent, dont les visages changent peut-être, mais qui au fond restent les mêmes, ne propose quoi que ce soit de concret, de réel pour le régler. Impuissants, impuissantes devant nos vidanges, qui, pendant que nous poursuivons notre train d'enfer, libèrent des toxines dans l'air, sur la terre, dans la mer, dans nos corps. La magie? Quelle magie! La terre nous est étroite, dit Mahmoud Darwish, et ce qui ne se transforme pas déborde. C'était « La civilisation mondiale des déchets », un texte de la rédaction paru au printemps 2023 dans le numéro 338 de la revue Liberté.
Vous pouvez retrouver cette émission sur le site de Canal M à l'adresse canalm.visevoix.com. Cette émission est rendue possible grâce à Gilbert Lepage et Robert Chartier à la lecture, Diane Métayer et Jean-Sébastien Laliberté à la recherche, Nicolas Wartman à la présentation et au montage.